faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Eh bien, 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces à Versailles, signature de ce fameux traité. Quelle était l'ambiance, l'atmosphère ce jour-là, monsieur Aimé?
Il y avait là, je ne sais pas combien, mais 800 personnes à peu près, qui avaient été le grand privilège d'y assister. Immédiatement, ont voulu photographier. Là, Clémenceau sauta en l'air, aucun appareil dans la salle. La signature était finie. Immédiatement, on entendit canon, des acclamations et des pigeons volèrent. C'était une minute inoubliable, absolument inoubliable, et un immense souvenir.
D'immenses souvenirs pour ce traité de Versailles, ce traité de paix, signé le 28 juin 1919. Il y a donc tout juste un siècle cette année, d'immenses souvenirs. Certes, cependant, tout le monde, ou presque, a oublié qu'il a existé un équivalent sportif du traité de Versailles. C'est ce qu'on a appelé à l'époque les Jeux interalliés, épreuves sportives entre soldats organisées à Paris en 1919 sous l'impulsion des États-Unis et dont l'analyse historique aujourd'hui nous révèle combien ils ont compté dans l'histoire du sport et de la société au XXe siècle, rien que ça. Et en effet, ces Jeux interalliés ont d'abord lancé la pratique du sport comme phénomène de masse. Et oui, et ils ont aussi redéfini les contours de la masculinité. Vous allez voir, c'est un point crucial. Ils ont ensuite révolutionné les méthodes d'entraînement des sportifs, quasiment jusqu'à aujourd'hui, pourrait-on dire. Et ils ont enfin et surtout sonné le début de l'impérialisme culturel américain en Europe. Et donc, pour disséquer ces Jeux interalliés de 1919, ils sont deux invités au micro d'Inter ce soir. Tout d'abord, il est historien, professeur d'université et auteur d'un livre passionnant consacré à l'histoire de ces Olympiades militaires. Thierry Théré, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. Merci. À vos côtés, il est historien lui aussi, et lui aussi un fin spécialiste de l'histoire du sport au XXe siècle. Jean Saint-Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Vous êtes bien sur France Inter, dans une émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, les Jeux interalliés de 1919. L'œil du tigre, c'est parti.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, on amorce l'émission avec notre intellectuel de la semaine. Aujourd'hui, il s'appelle Henri de Monterland, romancier, dramaturge et académicien. Mort en 1972, à l'âge de 77 ans, Monterland fut aussi un pratiquant du sport. Il croyait au sport comme expérience communautaire. Le sport fut à ses yeux une culture de la sympathie. Voilà, ça c'est l'essentiel, une culture de la sympathie. Alors s'il te plaît, Monterland, dessine-moi ton idéal du sport.
Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
L'idéal célébré dans mes premiers livres est toujours un idéal communautaire. Le collège, puis le régiment dans la guerre, puis le club sportif. Non seulement des Olympiques même, mais de leur préface de 1938, il ressortait que le sport avait été pour moi autant et plus qu'une culture du corps, une culture de la sympathie. Je rappelais d'ailleurs que chez les Grecs, ce n'était pas un dieu décoré d'une épithète athlétique qui présidait aux Jeux, mais un dieu décoré de l'épithète philios, qui signifie de l'amitié. Je rappelais aussi que l'essentiel de cette sympathie était, tout autant qu'à la guerre, d'être une camaraderie entre classes sociales différentes. Le terrain de sport est un terrain d'entente où l'intellectuel et le manœuvre, l'homme de 30 ans et l'enfant de 14 ans, peuvent pendant des heures vivre ensemble, causer ensemble, sans jamais que se dire qui est le mot de l'incompatibilité sociale. Je le dis, page 72 des Olympiques que j'ai sous les yeux, « Aux garçons, il y a un brin du myrte civique tressé dans vos couronnes d'olivier. » La main connaît la main dans la prise du témoin. L'épaule connaît l'épaule dans le talonnage du ballon. Le regard connaît le regard. Le cœur connaît la présence muette et sûre. Toutes ces choses ne sont pas faites en vain. Voyez-vous, je me dis souvent que si tout ce que moi et d'autres nous avons vu dans le sport est des illusions pures, s'il était vrai, par exemple, comme certains le prétendent, qu'il lui arrive de détraquer le corps, qu'il n'éduque nullement le caractère et ne rapproche nullement les classes, il y aurait tout de même encore quelque chose qui est acquis et que rien ne peut lui enlever, les heures de poésie qu'il fait vivre dans la grâce, la beauté parfois des visages et des corps de jeunesse, dans la nature et la sympathie. La poésie, là, est peut-être le seul résidu du sport.
Yeah. Ok. Lil CC on a beat. Yeah, yeah. I mean, where should I really even start? I got that I'm keeping in the dark. I got my across the street living large.
Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts till they sat with the bars. I got two phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell that apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. I got Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us and the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in a grave. When I die, I put my money in a grave. I really gotta put a couple in their place. Really just lapped every in a race. I really might tap realest on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you. I was on top when it meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top and these wanna swap. Wanna swap like it's lost in a watts. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Mom tied so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, Baby J. Tell him when I die, put my money in a crack.
Couple figures, kill a skull and collect. She then she on to the next. Really living large, she ain't all with a Mac. When you think it's small in a mall with a rat. Roll with us if you really wanna get it. Go get a half a million in a Sprinter. Phone ringing, no a big tipple. I got the hook up and there really no limit. Dead broke is in you DNA. Ricky Smiley syndicated with the look, just another state case. Bury mine, but Chase Bank time to bounce. Gotta count on my allowance. You bitchin', so I gotta rewrite it. Drippin' like I got a zillion dollars. Got the trap jumpin' like Zion when I rebound. Then I'm out, and I never talk about it. The homie squad, but we all smoke the loudest. Rich, then I'm really being modest. Cause the way I do my deals, never treated like an artist. Want a house, you could DM my account. My DM six figures and I'm counting. Nine figures was the goal till I hit the east. They ain't living, so bury mine with me. Ross got it.
When I die, I put my money in a grave. I really gotta put a couple d***s in a place. Really just lapped every d*** in a race. I really might tap realest d*** on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you.
Money in the Grave, une chanson signée Drake, accompagnée par Rick Ross. On quitte le 21e siècle, on revient tout juste 100 ans en arrière. Voici l'histoire du dimanche soir. En 1919, ont été organisées à Paris, à l'initiative des États-Unis, des Olympiades militaires, qu'on a baptisées à l'époque les Jeux interalliés, autrement dit des épreuves sportives entre des soldats des différents pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ces Jeux interalliés, dont on commémore cette année le centenaire, sont sortis des mémoires. On les a oubliés, personne ne s'en souvient vraiment. Et pourtant, quand on prend le temps de les ausculter, quand l'historien s'y penche, on s'aperçoit à quel point ils pèsent sur l'histoire du sport au XXe siècle. C'est ce qu'on va essayer de vous raconter ce soir. Et le récit de ces Jeux interalliés de 1919 commence quelques mois plus tôt, à l'automne 1918.
11 novembre 1918, le train spécial du maréchal Foch entre en gare de Compiègne, au nord de Paris. Dans ce wagon, en dehors des caméras, les envoyés du gouvernement provisoire allemand signent l'armistice. L'Allemagne reconnaît qu'elle est vaincue et demande l'arrêt des hostilités. Sur le front, le cessez-le-feu est fixé à 11h. La 11e heure du 11e jour du 11e mois. La guerre vient de se terminer. Enfin, elle a duré 4 ans. 75 millions d'hommes ont été mobilisés. 10 millions de soldats ont été tués. 20 millions de soldats ont été blessés.
Thierry Thérèse, je rappelle que vous êtes historien, un des grands spécialistes de l'histoire du sport, il faut le dire. Le bilan de cette Première Guerre mondiale est évidemment effroyable. On imagine mal avoir recours au divertissement. Et pourtant, quelques mois seulement après l'armistice, auront lieu à Paris ces Jeux interalliés, dont des grandes épreuves sportives, donc du divertissement a priori. Pour commencer en quelques mots, Thierry Thérèse, on avait oublié ces Jeux. Vous avez écrit un livre magnifique sur l'histoire de ces Jeux interalliés. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre sur ces Jeux militaires de 1919?
Écoutez, à vrai dire, on en parlait ici et là, mais force est de constater qu'il y a une vingtaine d'années, on ne savait pas vraiment ni le contenu, ni les enjeux, ni les calendriers, ni les acteurs derrière ces Jeux interalliés. On savait simplement qu'ils avaient eu lieu. Et les circonstances ont fait que je suis tombé sur le rapport officiel des Jeux, publié en 1919, quelques jours après la fin de ces Jeux interalliés, volumineux ouvrage de près de 500 pages, élégamment illustré, de nombreuses photos qui se libèrent de la page et on a
pratiquement des pages. Parce que vous l'avez avec vous ce soir. Hein,
oui, c'est
une sorte de grimoire, on va dire, une sorte de grimoire d'il y a un siècle. Vous l'avez sur la table avec nous, il est sublime, c'est un très bel ouvrage où effectivement on fait le bilan de ces Jeux militaires.
C'est un bilan, alors en termes de performance, mais on y trouve également quelques archives à l'intérieur qui sont reproduites. Et puis surtout, il y a une dédicace dans l'ouvrage que j'ai pu consulter, d'un certain Louis Schroeder, un Américain, membre de l'Union chrétienne de jeunes gens dans sa version américaine, les YMCA, dont on
va parler
connaît
ce soir.
Depuis évidemment le sigle. Une dédicace donc au professeur Latarget, connu notamment dans la région lyonnaise pour avoir été le directeur de ce qui deviendra aujourd'hui l'UFR en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et donc, j'ai été intrigué à la fois par la densité de ce contenu, et puis, lorsque je l'ai lu, par ce qui avait derrière. Parce que ce qui était dit, c'était en gros 4 ans de tragédie.
La Première Guerre mondiale, voilà.
Ces Jeux doivent permettre de retrouver la fraternité entre les alliés, cette amitié qu'ils ont connue dans les tranchées et que l'on doit décliner cette fois-ci sur le stade, faisant écho à cette culture de la sympathie que
Monterland évoquait. Absolument.
Magnifique.
C'est aussi pour ça qu'on a choisi Monterland ce soir, parce que la sympathie, c'est la fraternité du
absolument.
Sport, évidemment. Jean Saint-Martin, vous aussi historien du sport. Voilà. Alors Thierry Thérèse vient avec un livre qu'il a écrit, magnifique, sur ces Jeux interalliés. On les avait un peu oubliés, en effet, mais est-ce qu'à l'époque, ce sont des Jeux dont on a parlé? Est-ce que la presse française s'en est emparée? Est-ce que ça a un retentissement mondial? Est-ce que ces Jeux ont compté à la fois dans leur popularité et dans le côté médiatique de l'époque?
Alors, je pense qu'il faut aussi rappeler que ces Jeux ont eu lieu à Paris.
Oui, à Paris, en effet.
Et donc, dans la capitale de la France, et que le rayonnement n'est pas du tout le même en région parisienne et en province. Par exemple, pour travailler depuis maintenant 5 ou 6 ans sur le renouveau du sport en Alsace, étant professeur d'université à Strasbourg, nulle trace dans la presse locale de cet événement, alors que justement, on aurait pu voir, notamment de la part de certains acteurs dont on va reparler, de l'identité notamment Adolphe Chéron, cherche à promouvoir l'identité française dans ce territoire qui était, depuis 1871, rattaché à l'Allemagne. Donc, je serais beaucoup plus mesuré sur le caractère populaire. Oui, bien évidemment, quand Thierry Thérèse cite les chiffres 90 000 personnes lors de l'inauguration, c'est énorme. Mais ça concerne principalement les Parisiens, très peu les Parisiennes. Et quant aux provinciaux, eh bien, manifestement, il y a très très peu d'articles qui relaient cette information. Mais quand même, oui, il faut dire quand même que c'est un événement incontestable. Il n'y a jamais eu un tel événement en France, même si la France a déjà organisé, Paris a déjà organisé les Jeux Olympiques. Mais quand on regarde la presse, notamment La Vie au grand air du 15 juillet 1919, c'est quasiment le seul ouvrage, enfin presse populaire, qui vante justement cet événement à des fins de propagande. Mais je pense que nous y reviendrons.
Absolument. Donc alors, il y a 29 nations invitées, 18 nations vont répondre présentes à ces Olympiades militaires organisées en 1919, 1500 athlètes, c'est beaucoup de monde, hein, ce sont de grosses Olympiades militaires. Il y a une chose qui m'échappe, Thierry Thérèse, on dit les Jeux interalliés, la Grande-Bretagne n'est pas vraiment là. Il y a quelques athlètes anglais. Pourquoi la Grande-Bretagne, qui est vainqueur évidemment avec les Français, les Américains, pourquoi ne participe-t-elle pas à ces Jeux interalliés?
Alors la Grande-Bretagne ne participe pas, mais des Britanniques
oui.
qui participent. Ils sont une quinzaine dispersés dans...
C'est très peu.
Oui, oui, très peu sur 1500. Évidemment, ils participent à titre individuel. La Grande-Bretagne, en tant que nation, ne fait pas partie des 18 pays officiellement représentés. Alors, c'est une question qui, évidemment, mérite réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse dans ni le rapport officiel, ni aucune des archives, ni la presse de l'époque, y compris d'ailleurs en Grande-Bretagne. J'ai passé des jours et des jours à Colindale,
à traquer l'information,
absolument sans en vain. Deux hypothèses, néanmoins. La première, c'est que les Tommies ont souffert profondément, sans doute davantage.
Tommies, soldats anglais.
Absolument.
Hein, de la Première Guerre mondiale.
Que les Samis, les soldats américains. Et cette prise de conscience des autorités britanniques a pu leur faire craindre que les performances d'une délégation britannique soient extrêmement faibles, alors qu'ils estimaient, les Anglais estimaient à cette époque, être un peu les maîtres
du sport. Bien sûr.
Et donc, voilà, c'était sans doute difficile pour eux dans ce contexte.
Éviter la vanille.
Absolument.
Éviter l'humiliation.
Et c'est une attitude que les Français n'avaient pas, parce que la France n'était pas un grand pays de sport.
Par inconscience, finalement.
Absolument, et les autorités politiques ne pouvaient pas imaginer les enjeux politiques d'une telle manifestation. Et puis le deuxième argument est sans doute lié à l'Union chrétienne de jeunes gens. Parce que, dans l'histoire de la YMCA, il y a une alliance universelle, dont le siège est à Genève, et j'ai dû aussi traquer les archives sur place, et les branches américaines et les branches britanniques de cette alliance universelle de la YMCA ne s'entendaient absolument pas, et notamment ne prônaient pas la même place au sport dans l'idéologie éducative.
Soi, exactement.
Voilà. Et les Anglais, la YMCA anglaise, était finalement peu bienveillante par rapport à une initiative de la YMCA américaine, parce que ce sont bien les unions chrétiennes de jeunes gens côté américain qui ont très facilement convaincu les autorités militaires américaines, qui à leur tour ont convaincu les autorités politiques françaises.
Alors Thierry, il y a beaucoup d'enjeux à ces Jeux interalliés, il y a des enjeux militaires, pardon, qui sont très importants, parce qu'une guerre qui se termine ne signifie pas que tous les soldats rentrent chez eux très rapidement, comme on rentre de vacances, on reste sur place, il y a beaucoup de troupes qui sont là, de jeunes hommes qui ont vécu la guerre, qui sont à la fois sans doute traumatisés, mais aussi en dilettante, désormais il n'y a plus de combat, donc il faut l'intérêt principal au départ est quand même d'occuper des troupes qui sont là très massives, très nombreuses, dont on ne sait pas quoi faire et dont on craint qu'elles puissent à la fois être tentées par des vices ou au contraire par des baisses de morale. Enfin, il est question avant tout d'entretenir la forme des soldats qui sont là.
En effet, c'est ce qu'on trouve dans les échanges de courriers entre les autorités américaines, les forces expéditionnaires américaines et les autorités militaires et politiques françaises. À savoir que pendant cette période de démobilisation qui est à venir, et elle durera quasiment jusqu'en 1922.
Et oui.
Hein, il faut absolument occuper des troupes qui ont été dans un état de veille, de vigilance, de stress extrêmement important pendant des mois et des mois, des années pour certains, et les rendre comme ça en liberté d'une certaine manière,
ça inquiète beaucoup.
Crée une inquiétude majeure du côté des Américains, qui ont connu avec lors de la guerre espagnole un peu l'équivalent, et ils craignent avant tout que les Américains utilisent ce trop plein d'énergie
et ce temps libre
de façon un peu immorale,
oui, bien sûr.
Avec tous les fantasmes autour de la française que l'on connaît à l'époque. Et cet argument, il faut utiliser l'énergie pendant des soldats pendant la période de démobilisation, convainc très rapidement les autorités militaires françaises.
Jean-Saint-Martin, je rebondis sur les propos de Thierry Terray, parce qu'il faut bien avoir conscience que ces jeux interalliés donc, sont proposés en France par les États-Unis, on passe par les autorités militaires, mais elles sont quand même insufflées par la YMCA. C'est une vision du monde qui est importante pour les Américains, hein, Thierry vient d'évoquer ça. Il est question de canaliser des pulsions masculines, sans doute, de jeunes soldats américains. Ça, c'est important, Jean-Saint-Martin, parce que c'est aussi l'esprit de ces jeux. C'est une vision du monde, c'est un chrétien sain et musclé qu'on vient défendre.
Absolument, absolument. D'autant plus qu'à cette époque, donc dans l'immédiate après-guerre, il y a quand même un sentiment d'américanophilie,
et
notamment
oui.
culturelle. Ce sont les années folles, hein, rappelons-le. On découvre de nouvelles danses, le Charleston, le Foxtrot. Cette culture américaine est incarnée par
Josephine Baker,
qui triomphe aux Folies Bergères. Donc bien évidemment, La culture américaine représente, si vous me permettez cette expression, une entrée de la vieille Europe dans le XXe siècle. Du moins, est-ce l'opinion de la moitié de l'opinion française qui est partagée entre commémorer les 52 mois de guerre et les terribles sacrifices, 10,5% de la population active qui est tombée sur le champ de bataille, c'est le plus lourd tribut des nations en Europe, et puis l'autre France qui veut, elle, véritablement, je vais employer une expression un peu populaire, mais bouffer la vie.
Bien sûr.
Véritablement, on veut rentrer dans le XXe siècle. Et puis,
est-ce qu'on fait le deuil ou est-ce qu'on survit ?
Absolument. Mmh. Donc cette alternative, c'est aussi un moteur dans les mentalités françaises. Alors, bien évidemment, les villes ne sont pas touchées de la même manière que les campagnes en France. Mais globalement, ces Jeux interalliés offrent une opportunité de découvrir une nouvelle culture dont la grande majorité de Français n'a pas connaissance.
Et d'ailleurs, Thierry, là, pour rebondir à ce que dit Jean, c'est ce que vous avez découvert, ce qui est passionnant, je trouve, dans votre recherche, c'est qu'en effet, ces jeux interalliés qui sont supportés par l'influence de la YMCA, donc une vision un peu chrétienne américaine, protestante, on va dire, vous avez aperçu qu'il y avait une redéfinition des contours de la masculinité. Ça, c'est très important parce que tout d'un coup, il y a une vieille Europe qui a une vision du corps. Et puis arrivent des Américains avec ces jeux interalliés qui ont une autre vision du corps qui va quasiment perdurer jusqu'à aujourd'hui, Thierry. C'est le samise musclé. Le bourgeois qui a réussi, il est ventripotent, ou le dandy, il est frêle. Tout d'un coup arrive le samise pendant la Première Guerre mondiale, il est victorieux, il est musclé, il est costaud. Ça va beaucoup influencer notre vision du corps masculin.
Absolument. L'idéologie de la YMCA définit l'homme avec un grand H comme le chrétien musclé. Le chrétien musclé, conquérant, viril, très individualiste en même temps, dans sa manière d'être, de penser, de construire son avenir, en lien évidemment avec la société américaine du moment, libéral, capitaliste. Et c'est tout cet ensemble, hein, l'homme au service d'une société blanche, qui ose, capitaliste, qui doit passer par le sport. Et ça, c'est original, c'est quelque chose qui est absolument inconnu en France au même moment. Le sport comme moyen d'éducation, ça existe très largement en Grande-Bretagne, mais on a vu que les Anglais ne sont pas présents, ça existe depuis maintenant au moins deux décennies à cette époque, aux États-Unis, y compris d'ailleurs pour préparer à la guerre, pour préparer les soldats à la guerre. Toute chose qui est absolument impensable en France, où on raisonne par la gymnastique ancienne. Donc la masculinité en France, si vous voulez, de ce point de vue, est une masculinité collective, gymnique, très éloignée de cette idéologie du chrétien musclé. Et les Jeux interalliés sont un lieu, un moment, où se confrontent, finalement, deux visions de l'homme et deux visions de la société derrière. La YMCA, c'est ce qui est merveilleux dans les archives que j'ai pu découvrir à Minneapolis, la YMCA en a fait une cible. L'idée était de faire de la France une sorte de tête de pont pour modifier la société européenne à un moment où, évidemment, au sortir de la guerre, elle allait être recomposée. Et j'ai pu trouver des documents, des échanges de courriers tout à fait révélateurs de ce point de vue. C'était une véritable stratégie. Les Jeux interalliés devaient être une première étape dans une sorte de transformation.
Conquête, oui. Mais et qui a marché un peu d'ailleurs.
Alors, parce qu'on a... sur certains aspects, oui. Sur d'autres, on le verra absolument pas. Le mot conquête est juste, puisque en 1913, la YMCA américaine redéfinit sa stratégie et devient beaucoup plus prosélyte qu'elle ne l'était depuis sa création au milieu du 19e siècle.
Alors là se pose la question évidemment du sportif et du non-sportif, parce qu'on a affaire donc à des Olympiades militaires, des épreuves sportives organisées à Paris entre soldats, mais avec ce qu'on raconte, on ne sait plus si finalement l'enjeu il est sportif ou politique ou militaire. Est-ce que c'est l'hymne à la paix et à la fraternité, ou est-ce qu'on célèbre la guerre? Jean-Saint-Martin, qu'est-ce qu'on peut dire de ces... Ou alors c'est tout ça en même temps peut-être?
Disons que c'est assez complexe parce que l'opinion publique française est partagée, mais d'une manière générale, il y a aussi quand même en France, notamment sous la Troisième République, il y a tout un système de valeurs qui se met en place. Et bien évidemment, les Jeux interalliés vont un petit peu bouleverser, changer les codes, mais d'une manière générale, on reste quand même sur l'idée du bon sportif, bon soldat. Et donc, ces Jeux interalliés célèbrent aussi le sacrifice des poilus, même si, comme le rappelait Thierry Théret, la masculinité réalité sous-jacente n'est pas forcément celle qui était hégémonique en France à cette époque-là. Mais d'une manière générale, à travers ces Jeux interalliés, on veut surtout montrer que la France se relève de 4 années de tuerie collective, et donc dans les mentalités, c'est même une sorte d'adage, être fort pour être en paix, et donc on n'a pas un nationalisme sportif tourné vers la guerre, contrairement à ce que certains réclament, le mythe de la revanche, etc. Non, c'est un nationalisme de défense qui sert à contribuer, à promouvoir le prestige de la France, et surtout vaincre toute tentative ennemie de reconquête du territoire français, et notamment, bien entendu, l'Alsace et une partie de la Moselle.
Évidemment. Thierry Terray, avant de boucler cette première partie, est-ce qu'on peut dire, de manière un peu hérétique et résumée, que ces Jeux interalliés sont une sorte d'équivalent sportif du traité de Versailles ?
Écoutez, la proximité, à la fois dans le temps et dans l'espace, des Jeux interalliés d'une part et de la signature
du
traité de Versailles d'autre part, oblige à faire ce rapprochement. Alors évidemment, toute proportion gardée, hein, ça reste quand même 1500 athlètes sur le stade dont on a donné le nom
le
au général Pershing,
général américain.
Face à ce qui recompose le monde. Donc, sachons raison garder.
Oui, oui.
En même temps, hein, je dis, cette proximité spatio-temporelle oblige à imaginer que ce n'est pas simplement une rencontre sportive, et de fait, toutes les archives, tous les échanges de courriers le confirment. Il y avait des sous-entendus culturels. Et donc oui, je pense qu'il y a d'une certaine manière un miroir des Jeux interalliés dans cette histoire.
Allez, 18h36 sur Inter. On va poursuivre cette discussion sur les Jeux interalliés de l'été 1919. Mais pour l'instant, c'est le retour de l'orchestre, emmené cette fois par Dominique A. Le titre joué, Beau Rivage, Ainsi soit-il.
Nous échouerons à Beau Rivage, aurons perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, aurons goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps. Sur Beau Rivage, nous échouerons. Avant qu'on voie tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs. À Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend, aurons perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage, aurons connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beau Rivage, nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'un des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà landes et marécages, avons perdu beaucoup de temps, avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur Beau Rivage, nous échouerons. Thank you.
partir du mois de juin 1917, 2 millions de soldats américains vont débarquer en rang serré. On les appelle les Samis. Les Samis débarquent en France avec une manière très américaine de vivre l'armée. Crâne rasé, torse nu. Les Samis débarquent avec des sports américains et leur matériel. Ils ont apporté des panneaux et des ballons pour jouer au basket. 4 ans plus tard, on organise en France la première compétition d'envergure nationale.
Philippe Collin, sur France Inter.
Après l'armistice, signé le 11 novembre 1918, ces Samis de la Première Guerre mondiale, ces soldats sportifs américains, ont participé aux Jeux interalliés aux côtés de 18 autres nations, sorte d'Olympiade militaire organisée à Paris à la fin du mois de juin 1919. Il y a donc tout juste un siècle, des Jeux interalliés placés sous la haute autorité d'une légende de l'armée américaine et qui a donné son nom au stade dans lequel se sont déroulées les épreuves.
Sur ce stade Pershing, cet historien revit les Jeux interalliés de cet été 1919.
Les tribunes pleines, la foule, l'ovation, médaille remise par Pershing en personne.
Le grand ordonnateur de cette compétition, c'est lui, Pershing, le chef des troupes américaines. Son pays fait construire le stade en 3 mois. Devant 90 000 spectateurs, se déroulent des épreuves allant de l'escrime à la boxe en passant par le basket et l'athlétisme. On y célèbre la paix entre alliés. La France termine deuxième derrière les États-Unis. Mais qu'importe, ici l'Hexagone découvre le sport dans sa diversité.
Thierry Terray, je rappelle que vous êtes historien du sport et auteur d'un livre passionnant consacré à l'histoire de ces Jeux interalliés de 1919. On a évoqué des enjeux militaires, des enjeux culturels. Évidemment, il y a des enjeux sportifs, on va y revenir, mais il y a des enjeux aussi politiques, diplomatiques. Il est question de célébrer la fraternité. Et ce stade Pershing, il est intéressant parce qu'il est offert, en effet, par les États-Unis à la France, hein, un grand stade construit très rapidement, 3 mois après la Première Guerre mondiale. Et il est question, je crois, que les Américains envisagent ça comme une sorte de rendu. On avait offert la Statue de la Liberté aux États-Unis en 1886, on va dire. On est à peine 20 ans plus tard. Hein. Et ils considèrent ça finalement comme ce stade-là, le stade Pershing, va être offert comme on rendrait la monnaie de la pièce, en tout cas de la fraternité et de la paix.
C'est en tout cas ce qui est dit dans la presse de l'époque, du côté français comme du côté américain, une sorte de don contre don.
Oui, oui.
Et en réalité, il y a une double remise des clés du stade. Il y a une première remise de la YMCA américaine, qui était finalement derrière. Hein.
Ces Jeux interalliés. Oui.
Voilà. Oui. Aux autorités, enfin à Pershing, aux autorités américaines, donc le général Pershing, général en chef des forces expéditionnaires américaines, tout comme de l'ensemble des alliés, et à son tour, le général Pershing remet les clés aux autorités françaises. On a donc une double remise. Alors pourquoi avoir construit un stade? Tout simplement parce que en France à cette époque, il n'y a pas d'installation de ce type-là.
Et oui.
Où elles sont bien trop modestes pour pouvoir accueillir autant de spectateurs et autant d'épreuves.
C'est le premier grand stade en France.
C'est quasiment, alors, ce n'est pas un grand stade. Oui, oui, et du reste, en 1924, lorsque Paris accueillera les Jeux Olympiques, le stade de Pershing ne pourra pas être utilisé,
oui,
comme ça avait un moment été évoqué, et c'est à Colombes qu'ils auront lieu. Mais en effet, en 1919, ce stade est construit en quelques semaines, d'abord par des Français, et puis à la suite des grèves du 1er mai, les Américains ne comprennent pas ce qui se passe, et ils remplacent tous les ouvriers français par des soldats américains qui, oui, évidemment, s'avèrent beaucoup plus efficaces, et le stade est même prêt en avance, et voilà, la France récupère finalement un stade, alors que personne n'y aurait évidemment pensé encore quelques mois plus tôt,
évidemment, dès en 1919. Jean Saint-Martin, vous êtes vous aussi donc historien du sport. Je l'évoquais, il y avait des enjeux sportifs qui sont aussi portés par les enjeux de la YMCA, hein, qui est donc cette congrégation chrétienne qui vient défendre une vision du chrétien saint et musclé. Et c'est intéressant parce que ces Jeux interalliés, ces Samis, viennent avec leurs sports, qui sont d'ailleurs des sports un peu protestants, des sports de non-contact, comme le basketball par exemple. Ça c'est important, Jean, parce que ces Jeux interalliés viennent amener aussi... Alors le basket existait en France déjà avant la Première Guerre mondiale, mais c'était assez anecdotique. Là, ces Jeux-là viennent imposer comme une sorte de vitrine ces Jeux américains, qui sont des Jeux un peu moins corps à corps, on va dire.
Absolument. Alors, il y a des enjeux culturels, bien évidemment. Mais à travers cet événement, la culture américaine cherche à inonder la vieille Europe. Rappelons aussi que la France subit quand même un lourd tribut de cette première guerre mondiale. Et que les États-Unis qui sont rentrés, c'était justement rappelé tardivement dans la Première Guerre mondiale, sont d'une certaine manière les grands gagnants, notamment sur le plan économique. Donc il y a effectivement la puissance américaine qui s'exprime à travers cet événement, et ça va pas s'en poser des problèmes aussi, bien évidemment, parce que le caractère franchouillard s'exprime aussi à l'occasion de ces Jeux interalliés. Je prendrai juste un exemple, la finale de la compétition de rugby entre la France et les États-Unis, où je cite Thierry Théré en page 76 de son livre, les Français l'emportent finalement dans une ambiance détestable, les lances d'arrosage maintenant les spectateurs à distance de l'arbitre et des joueurs.
Oui. Bon, c'est tendu, par exemple.
C'est il y a 100 ans, mais globalement, finalement, on voit encore ce genre de...
Ce côté coq gaulois.
Voilà. Donc, il y a vraiment un choc culturel qu'il convient effectivement d'analyser, de nuancer aussi, parce que bien évidemment, il y a aussi des résistances.
Évidemment, Thierry Théré, le traité de Versailles va redéfinir l'ordre mondial. Hein. Les frontières vont changer, hein. L'Empire austro-hongrois va disparaître, l'Allemagne est redécoupée, on récupère la Ruhr, enfin on occupe la Ruhr un peu plus tard. Mais en tout cas, le nouvel ordre mondial n'est plus le même. Et ces Jeux interalliés ont aussi évidemment des enjeux sportifs et politiques. Les Américains viennent sur le stade pour gagner. Il n'est pas question juste de la fraternité, il est aussi question que les sportifs américains, soldats, hein, anciens combattants, dans ces Jeux interalliés, montrent la force américaine, à la fois physique et quasiment philosophique, on a envie de dire.
Oui, absolument. Les Américains doivent d'abord se montrer les meilleurs dans l'organisation, et ils doivent se montrer les meilleurs sur le stade, notamment face aux Français. Parce que, et ça a été notamment très très bien démontré par Pierre Milza, la crainte des Américains,
Pierre Milza.
Absolument, la crainte des Américains, c'est que dans une Europe en pleine recomposition, la France prenne la place que l'Allemagne occupait en termes économiques. Et ce que veulent les Américains, c'est bien dominer à la fois l'Europe et par conséquent le monde. Donc, il faut symboliquement l'emporter, et notamment l'emporter sur les Français. À la fin des Jeux interalliés, de fait, les Américains s'imposent très largement, mais la France est seconde, donc d'une certaine façon, l'objectif est rempli du côté USA. Mais ça explique, et sinon on ne le comprendrait pas, pourquoi la presse américaine, dans sa diversité, passe autant de temps à décrire les rencontres particulières au sein des Jeux interalliés qui opposent des soldats américains à des soldats français. En boxe, qui est une activité sportive guerrière, martiale, c'est tout à fait remarquable. C'est les combats entre Français et Américains sont les seuls à obtenir autant de d'articles, alors que les Italiens auraient pu aussi obtenir le même attention. Pas du tout. Et dans toutes les activités, c'est ainsi. Il y a une centration sur le cas français du côté américain, et il y a une centration sur le cas américain dans la presse française qui ne s'explique que par ces enjeux politiques, au-delà du sport.
Thierry, il y a une affiche officielle à ces Jeux interalliés, une affiche comme chaque épreuve sportive mondiale. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un tout petit peu et nous dire ce que vous y voyez, vous, dans cette affiche de 1919, donc 22 juin, 6 juillet, hein, c'est les dates des Jeux interalliés à Paris en 1919, donc elle est en anglais d'ailleurs, Pershing Stadium, Paris. Qu'est-ce qu'on y voit sur cette affiche, Thierry, et qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Oui, alors il y en a aussi en français,
mais j'imagine. Mais
c'est vrai que j'ai reproduit plutôt la version américaine compte tenu de ce qu'on vient de dire. Et c'est une affiche qui est d'ailleurs reproduite dans des cartes postales, toute une gamme.
Des produits dérivés.
Voilà. On parlerait aujourd'hui en effet de produits dérivés. C'est une affiche qui représente un athlète en train de sauter par-dessus différents drapeaux qui symbolisent justement la diversité des nations représentées. Elle est réalisée par un Américain, un militaire, un premier lieutenant qui s'appelle Dolin, qui est relativement inconnu. Et c'est quelque chose, enfin c'est une affiche qui, enfin dont les caractéristiques dans le style, dans les choix, dans le parti pris reflètent assez bien ce qu'on va retrouver pour les Jeux Olympiques pendant toute la période qui va suivre. La manière dont l'élévation, par exemple, est
mise en scène. Absolument.
Le jeune homme est montré torse nu.
Ah oui.
Hein, on va retrouver, on a en tête certaines les affiches de Berlin, par exemple. La dynamique, la phase aérienne, les drapeaux qui renvoient bien sûr à l'idée omniprésente de nation. Donc la politique, j'oserais dire, est présent dans cette affiche. Et donc on a une préfiguration des principe de l'iconographie sportive, des grands événements de l'entre-deux-guerres, dans tous les archétypes, hein, l'élévation, la chute, la verticalité, la force, la masculinité aussi.
Bien sûr, qui est redéfinie dans cette photo.
Un homme, la plastique générale, renvoie vraiment à ce qui se fera dans toutes les affiches de l'entre-deux-guerres.
Jean-Saint-Martin, en écoutant cette émission depuis une demi-heure, on s'aperçoit à quel point finalement ces Jeux interalliés sont embryonnaires de toute l'histoire du sport au XXe siècle. Que ce soit à la fois dans ce que vient de raconter Thierry Thérèse sur l'image que dégage l'affiche, mais également sur les enjeux, sur les corps. En fait, on les avait oubliés, on ne les connaissait plus. Thierry ressort ce grimoire-là de Lyon, où il retrouve le rapport des Jeux interalliés de 1919. Et c'est vrai qu'en fait, ils sont très importants en réalité, sans doute, dans les mutations sportives du XXe siècle.
Absolument, parce qu'ils révèlent, et l'analyse que produit Thierry Thérèse autour des quatre enjeux est tout à fait... On peut la reproduire pour les événements suivants, qu'il s'agisse des Coupes du Monde, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques. Mais force est de constater que dans les années 20, les années folles, puis ensuite les années tristes, les années 30, il va y avoir quand même un certain nombre de dérapages. Et donc les Jeux interalliés annoncent aussi la face cachée du sport moderne, avec effectivement ses excès dans les tribunes, mais aussi sur le terrain. Bien évidemment, l'instrumentalisation des performances des athlètes à des fins nationalistes. On pense bien évidemment à la Coupe du Monde de football en 1934 en Italie, mais surtout, comme Thierry le rappelait, les Jeux Olympiques de 1936, où là, véritablement, il y a une instrumentalisation, une propagande du Troisième Reich à travers cet événement. Donc, oui, ces Jeux interalliés n'ont peut-être pas fait l'objet d'une analyse aussi poussée que les autres événements de l'entre-deux-guerres, mais néanmoins, ils révèlent finalement que c'est la célèbre devise de Clémenceau, gagner la paix sera encore plus difficile, eh bien, on s'aperçoit que les nations sont prêtes à mettre sur la table un certain nombre de dispositifs licites et illicites.
Absolument. Ces Jeux interalliés donc, devaient asseoir la fraternité des peuples. Cette guerre devait être la guerre des guerres. Hein. Nous n'y irions plus au front. Or, on connaît la suite. Une seconde guerre mondiale au bilan encore plus meurtrier, 60 millions de morts. Et en 1948, d'autres Olympiades militaires ont été organisées en Angleterre cette fois.
Eh bien, c'est aujourd'hui 30 juillet à Stoke Mandeville, dans le sud de l'Angleterre, que se déroulent les Jeux Olympiques des Paralysés, organisés par le ministère britannique de la Santé avec la collaboration de la Fédération mondiale des anciens combattants. Stoke Mandeville a été choisi parce que c'est là, de nombreux auditeurs le savent, qu'est installé le centre de traumatologie spinale du docteur Ludwig Gutmann, qui est d'ailleurs le promoteur de ces Jeux. Outre 100 Britanniques, près de 100 invalides participeront dans leur fauteuil roulant, à des compétitions de tir à l'arc, ping-pong, lancement du javelot, basketball, etc. En outre, un concours de natation réunira tous ces hommes et toutes ces femmes dont on ne peut qu'admirer le courage et la ténacité. Parmi les participants, on compte des représentants des États-Unis d'Amérique, d'Australie, de Finlande, de Belgique, des Pays-Bas, de Danemark, d'Israël, de la République fédérale d'Allemagne, etc. 8 paraplégiques représenteront la France, parmi lesquels 5 anciens combattants, membres de l'amicale sportive des mutilés de France, conduits par leur président Philippe Berthe et le médecin-colonel Kerbeuf. La délégation sera accompagnée par Geneviève de Gallard, qui a décidé de se consacrer à la réadaptation des blessés de guerre.
Thierry Thérèse, ces Jeux d'anciens combattants en 1948, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ont été organisés par le professeur Ludwig Gutmann. D'abord, en quelques mots, qui est-il, ce Ludwig Gutmann?
Alors, Gutmann, c'est un juif allemand. Qui a fui l'Allemagne nazie en 39.
Un neurochirurgien.
Absolument. Qui se spécialise sur la réhabilitation des blessés, des blessures à la colonne vertébrale. Et lorsqu'il arrive en Angleterre, on lui offre plusieurs propositions de poste. Il en retient une parce qu'il a carte blanche pour oser quelque chose auquel jusqu'alors n'a pas encore pensé. Travailler à la fois sur la rééducation physique et le moral, grâce à des activités physiques, y compris des activités compétitives.
Sportives, donc.
Voilà. Et donc, c'est une lecture qui n'est plus seulement médicale, mais qui est sociale. Du handicapé. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui connaît un succès. Alors ça passe en 1948 par l'organisation des premiers jeux de Stockmanville. Gutmann est assez facétieux puisqu'il les organise au même moment où se tiennent les Jeux de Londres, les Jeux Olympiques de Londres.
Les Jeux officiels, on va dire.
Voilà, donc sans doute est-ce un clin d'œil de sa part sans... Alors, à cette époque, imaginez que ces Jeux auraient une filiation qu'on connaît aujourd'hui à travers les Jeux paralympiques. Mais, pour être complet, deux ans avant, en 1946,
oui.
une autre tentative a eu lieu,
de
avant
jeux
les Jeux
interalliés,
de Jeux interalliés, oui. Mais sans commune mesure avec ceux de 1919, beaucoup moins de nations, beaucoup
Absolument.
Moins de sports, et un retentissement quasiment nul.
Absolument. Jean-Saint-Martin, ces Jeux organisés par Gutmann sont à la fois une sorte d'échec des Jeux interalliés de 19, puisque évidemment il y a eu une Seconde Guerre mondiale, mais c'est ce que vient de dire Thierry Terret, c'est aussi l'amorce des Jeux paralympiques. Jean XXIII, le pape, surnommait Gutmann le Coubertin des paralysés, c'est-à-dire qu'il a mis en place aussi les Jeux paralympiques dans la foulée de ces Jeux-là, 48.
Oui, absolument. Et là, nous rentrons véritablement dans le second XXe siècle, qui est marqué avant tout et surtout par la démocratisation du sport. Désormais, tout un chacun peut faire du sport, quelles que soient ses aptitudes physiques, ses déficiences.
Y compris le corps entravé, oui.
Absolument. Et donc, il y a là une véritable révolution en termes de mentalité qui fait, bien évidemment, que le sport est encore plus un élément de ces cultures de masse. D'autant plus que ces Jeux vont être médiatisés et qu'un certain nombre de tabous vont tomber, justement parce que on va se rendre compte que les personnes atteintes de quelconque vulnérabilité, là on parle effectivement de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a d'autres types de vulnérabilités, vont faire la démonstration que le sport est avant tout un partage, est avant tout joie de vivre, et pour reprendre l'expression de Monterland, une culture de la sympathie.
De la sympathie, absolument.
Donc
comme l'introduction de l'émission. Pour terminer rapidement, Thierry Terret, dans votre conclusion, vous rappelez que Michel Vinocq a défini quatre critères pour faire un événement historique. L'intensité, l'imprévisibilité, le retentissement et le poids des conséquences d'un fait. Est-ce que les Jeux interalliés sont un événement historique, Thierry Terret ?
Alors sans doute, quand Michel Vinocq, en 2002, a adressé cette carte, cette grille de lecture, ne pensait-il pas aux Jeux interalliés, mais ça m'a semblé une grille intéressante pour conclure et questionner en même temps cette manifestation. Et en réalité, oui, ce sont des Jeux qui ont été d'une certaine manière imprévisibles, avec un retentissement notamment en France et aux États-Unis assez significatif, et des conséquences variées. C'est vrai que le basket a connu un vrai rebond.
C'est l'entrée.
Contre le baseball.
Oui, bien sûr. Qui aurait pu avoir un destin qui n'a pas eu de destin
en marché.
Oui.
Donc, des retentissements divers, variés, mais incontestables.
Donc, c'est un événement historique, ces Jeux interalliés de 1919. Merci à vous deux d'être venus ce soir pour évoquer ce siècle passé, ce siècle d'où nous venons tous. Il est important de s'en souvenir. Vous pouvez lire le très bon livre de Thierry Terret, Les Jeux interalliés de 1919, aux éditions de l'Armaton. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Marco Mutel aux manettes ce soir, à de Grégory Wallon. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin, pour les Scuds. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'une course mythique, le Paris-Rouen, épreuve cycliste dont on fête cet automne le 150e anniversaire. C'est la plus vieille course au monde, une épreuve à part qui raconte la France du Second Empire à la 5e République, c'est incroyable. À vélo de Paris à Rouen, on traverse toutes les époques dimanche prochain à 18h10 dans l'Œil du Tigre. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine sur Inter, bien sûr. Salut et fraternité.